Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Première réaction, disons, politique tchèque à l'annonce de la mort de Muammar Kadhafi. L'actuel chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, devrait être le premier candidat officiel en cas d'élection présidentielle au suffrage direct. Le Victoria Plzeň a été battu par le FC Barcelone 0-2 en phase de poule de la Ligue des Champions. La mort de Muammar Kadhafi démontre que les crimes perpétrés par les dictateurs sur leur propre nation ne resteront pas impunis, a déclaré le premier ministre tchèque Petr Nečas suite à l'annonce de la capture et du décès du dictateur libyen, en ajoutant que cette journée marque un moment symbolique sur le difficile chemin du peuple libyen vers la liberté. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, lui, s'attend à la fin des combats en Libye. J'espère que le pays se stabilisera, qu'elle élira de manière démocratique un gouvernement responsable, a déclaré le chef de la diplomatie. Et l'actuel ministre des Affaires étrangères et chef du parti Top 09, Karel Schwarzenberg, devrait être dès ce week-end le premier candidat officiel dans le cas où le suffrage direct de l'élection présidentielle est adopté. Le parti Top 09 devrait le nommer officiellement lors de son congrès de Hradec Králové. Dans le passé, Karel Schwarzenberg a indiqué qu'il ne serait candidat que si l'élection se déroulait au suffrage direct. Il fera savoir ce week-end à son parti s'il sera potentiellement candidat si le système électoral reste tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une élection du président par les deux chambres du Parlement. Un monument aux légionnaires tchécoslovaques a été inauguré ce jeudi à Tcheliabinsk, dans l'Oural, en Russie. Sur le monument ont été gravés les noms de 262 soldats, membres des légions tchécoslovaques, morts ou portés disparus il y a plus de 90 ans dans la région de Tcheliabinsk. L'inauguration du monument, dont l'installation avait été financée par l'État tchèque, a soulevé une vague de protestations des habitants de la région et des médias locaux, en raison de l'engagement des soldats tchécoslovaques dans la guerre civile russe contre les bolcheviques. Néanmoins, la cérémonie à laquelle ont assisté des délégations officielles tchèques et russes, ainsi que plusieurs centaines de personnes, s'est déroulée sans incident. Au total, environ 3500 légionnaires tchécoslovaques ont trouvé la mort en Russie. Le lancement de deux premiers satellites du système européen de radionavigation Galileo, qui devait avoir lieu ce jeudi au centre spatial de Kourou en Guyane, a été reporté par l'Agence spatiale européenne pour des raisons techniques. D'après l'agence DPA, le lancement de la fusée Soyouz qui emporte les satellites pourrait avoir lieu vendredi ou samedi. Le grand début du système Galileo, rival européen du célèbre GPS américain, est attendu avec impatience à Prague, où se trouvera dès l'été 2012 le siège de l'autorité européenne de surveillance du système. Pour le ministre tchèque des Transports, Pavel Dobesch, la date du lancement des satellites est moins importante que l'impact positif du projet sur l'indépendance stratégique et politique de l'Europe et sur son économie. La troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions a débuté mardi avec 8 rencontres au programme. L'unique club tchèque présent dans la compétition jouait mercredi. Sans surprise, le Victoria Plzeň a été battu par le FC Barcelone 0-2. Le 1er novembre, le Victoria Plzeň accueillera le club catalan à Prague. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Brigitta, le temps en République tchèque sera nuageux avec éclaircies. Les températures varieront entre 6 et 10 degrés pour les maximales. Le week-end s'annonce ensoleillé. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. L'important marché public censé permettre la décontamination des sites les plus pollués de République tchèque ne sera finalement pas attribué. Tous les détails sous cette décision gouvernementale en début d'émission. Et puis on parlera du Festival de la culture orientale qui se déroule à partir de ce jeudi à Prague et qui part ensuite en région. Et puis direction la Moravie du Sud dans la rubrique touristique du jour. Bonne écoute de ce programme. L'important marché public qui devait permettre de décontaminer les sites les plus pollués de République tchèque ne sera finalement pas attribué. La décision a été annoncée mercredi par le Premier ministre Petr Nečas. Quelques heures plus tôt, le ministre des Finances Miroslav Kalousek avait conseillé au gouvernement de ne pas accepter l'offre de 56,8 milliards de couronnes, soit 2,3 milliards d'euros, de la société Marius Pedersen Engineering. Bien que retenue comme la plus avantageuse parmi les offres présentées par les trois derniers candidats, Le ministre des Finances a néanmoins considéré l'offre de la société danoise surévaluée. 3 ans après son lancement, c'est donc la fin de l'EcoTender, un super appel d'offres écologiques très critiqué pour son fort potentiel de corruption. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
La décision prise par la coalition marque la fin du deuxième appel d'offres le plus important initié par le gouvernement tchèque ces dernières années. Il ne reste donc plus aujourd'hui que l'appel d'offres pour l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín, pour faire jaser, mais aussi de lourds dommages écologiques hérités de l'industrialisation à outrance du pays dans la seconde moitié du XXe siècle, dégâts environnementaux que l'État s'est engagé à réparer lors des grandes privatisations menées dans la première moitié des années 1990. Une chose est toutefois certaine, les localités polluées ne seront assainies par aucun de 3 des 6 groupes qui étaient encore en course jusqu'à tout récemment. Elles ne seront donc pas assainies par la société danoise Marius Pedersen, dont l'offre de 56 milliards 800 millions de couronnes était la moins onéreuse de toutes, critère décisif selon le ministère des Finances. Offre la moins onéreuse, certes, mais encore trop onéreuse quand même, et même surévaluée selon Miroslav Kalousek, qui explique pourquoi.
Le montant total de l'offre est composé de 3 éléments. Il y a d'abord le montant des travaux qui auraient été réalisés. Ce montant répondait à peu près aux estimations du ministère de l'Environnement. Il y a ensuite le prix de l'argent ou le taux d'intérêt, car le fournisseur aurait dû préfinancer avec ses propres ressources les travaux afin que ceux-ci puissent être achevés le plus rapidement possible. L'État, lui, aurait ensuite progressivement remboursé cet argent avec des intérêts. Étant donné la situation sur les marchés, le prix proposé était là aussi tout à fait correct. Et le 3e élément est le montant du risque encouru. Un des avantages de cet appel d'offres devait être d'établir un montant total avant le début des travaux afin que la société retenue ne puisse pas ensuite facturer de travaux supplémentaires, ce qui est souvent le risque. Ce risque devait être assumé par le fournisseur. Or, le montant de cet élément-là était à mon avis beaucoup trop élevé. C'est pourquoi je ne pouvais pas recommander l'offre au gouvernement.
Selon le ministère de l'Environnement, le montant réel du marché proposé s'élevait à environ 40 milliards de couronnes, tandis que l'ONG Anticorruption Transparence Internationale, qui voyait dans ce gigantesque appel d'offres d'abord un moyen occulte de financement pour les partis politiques, l'estimait, elle, à seulement 25 milliards. Nombreux sont donc ceux qui ont accueilli comme une bonne nouvelle la décision finale du gouvernement. Très réservé depuis le début sur ce dossier, à la différence du ministre des Finances qui jusqu'au bout en a été un des farouches défenseurs, le Premier ministre est néanmoins conscient qu'une autre politique devra désormais être adoptée afin que le gouvernement respecte ses engagements pris auprès des propriétaires des entreprises privatisées après la Révolution. Petr Nečas pense que la solution pourrait résider dans la répartition des travaux d'assainissement en différents lots écologiques, lots qui feraient ensuite l'objet d'appels d'offres spécifiques.
Je peux imaginer plusieurs critères pour cela. Bien entendu, une des conditions serait que le montant total des travaux soit établi et garanti à l'avance, afin qu'il ne puisse pas être augmenté en cas de travaux supplémentaires. Ces lots pourraient être définis par exemple selon les régions où se trouvent les sites pollués, sur la base du type de dommage écologique, de l'urgence de décontaminer un site, ou en combinant ces 3 facteurs.
En attendant de définir sa prochaine stratégie, l'État va donc poursuivre la politique qu'il mène depuis près de 20 ans pour décontaminer les plus de 500 sites pollués à travers le pays, c'est-à-dire lancer des appels d'offres pour les différents sites.
Du 20 au 27 octobre se déroule la 3e édition du Festival de la culture orientale à Prague, mais aussi dans 2 villes de province. Lucie Niemeczkova est à l'origine de ce festival, tout comme elle est à l'origine du rendez-vous du printemps Afrique en création. En dépit des difficultés financières, Lucie Niemeczkova s'accroche et propose cette année une nouvelle édition de ce festival consacré au monde arabo-musulman, même s'il est bien plus réduit que les années précédentes. On écoute Lucie Niemeczkova.
Il y a peut-être moins jours pour cette année de ce festival. Mais c'est pas vraiment la faute du festival. Il faut voir la situation qu'elle est. Combien d'argent on n'a pas besoin. Et avec cette somme que nous avons, je pense qu'on fait le maximum. Ça veut dire les 4 soirées à Prague et 2 soirées ou l'après-midi ailleurs à Brno et Zlin. Et à Prague, ce sont surtout les spectacles et la musique.
Parmi ces spectacles, on a donc un premier spectacle qui est un petit peu le spectacle principal de ces 4 jours. C'est un spectacle qui est tiré d'une pièce d'Adèle Hakim.
C'est le spectacle de Lucie Malkova, ses acteurs de cet auteur égyptien qui vit en France.
Autre spectacle alors qui est prévu donc dimanche 23 dans le 2e arrondissement de Prague à la Casa Guelmi à partir de 17h, c'est un spectacle pour les enfants. Alors de quoi s'agit-il exactement?
Oui, c'est le spectacle pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes de Mille et une nuits. C'est la lampe magique
d'Aladin
jouée par un marionnettiste avec les marionnettes, avec la musique orientale.
C'est un marionnettiste tchèque?
C'est un marionnettiste tchèque qui est sorti de l'Académie de théâtre de Prague et qui joue ce spectacle. Après ce spectacle, on invite les enfants pour un atelier avec les marionnettes et autour de la lampe magique. Et après, pour ceux qui veulent continuer avec nous, avec la danse orientale, c'est Marhaba, ça veut dire en arabe bienvenue. Les gens sont bienvenus participer à soirée de danse des 3 groupes de danse orientale de České Budějovice, de Brno et Prague.
Alors pour ce qui est du programme qui se déroule justement hors de la capitale tchèque, donc vous le disiez, il y a Brno et Zlín, et ça en fait ce sera pas des spectacles, c'est plutôt des débats, si j'ai bien compris.
Oui, ce sont les débats qu'on organise avec la Société de l'amitié tchéco-arabe. Ce sont les 2 débats autour de l'islam en Tchéquie et sur l'Égypte.
Est-ce que justement vous reflétez un petit peu les derniers événements qui se sont passés finalement depuis le début de l'année, les révolutions, le printemps arabe dont on parle énormément dans les journaux?
Nous sommes le festival culturel qui ne reflète pas cet événement politique, sauf Adèle Hakim, on pourrait dire que c'est une réflexion théâtrale, mais artistique, sur pas les événements actuels, mais les choses qui sont dans la société, qui durent, mais qui peuvent se passer dans les pays arabes, mais aussi chez nous ailleurs.
Sur ces 3 ans finalement de festival, est-ce que vous avez vu finalement une évolution par exemple dans la perception parfois de Tchèques qui ne connaissent pas la culture arabo-musulmane? Est-ce que vous avez des retours de personnes qui vous parlent de leur ressenti?
Oui, tout de suite après les événements, il y a les gens qui viennent nous voir et nous parler. Donc ce sont les moments fort et important pour nous parce que ça nous encourage.
Voilà, c'était Lucie Niemeczkova qui organise le Festival de la culture orientale qui en est cette année à sa 3e édition. Il se déroule du 20 au 27 octobre à Prague, mais aussi à Zlín et à Brno. Rendez-vous également dans Culture sans frontières samedi pour découvrir la pièce d'Adèle Hakim, exécuteur numéro 14, mise en scène par Lucie Malkova. Direction maintenant la Moravie du Sud, région touristique chargée d'histoire, connue pour ses châteaux, ses forteresses, églises, synagogues, lieux de pèlerinage et de batailles célèbres comme celle d'Austerlitz. Or, la Moravie du Sud est avant tout la première région viticole de République tchèque. Si les fêtes des vendanges y ont lieu tous les ans en septembre, le mois d'octobre est aussi l'occasion de goûter au nouveau burčák, jeune vin bourru typiquement tchèque. C'est aussi le mois où les vignerons ouvrent les portes de leurs caves pour des visites œnologiques guidées et des dégustations commentées. Jarkagi Sebelova s'est rendu dans la région de Strajnice, voisine de la Slovaquie et de l'Autriche, où le tourisme viticole ne cesse de gagner en popularité et où se trouve l'une des raretés de la Moravie du Sud, un ensemble de 80 caves baroques de Petrov, classées monument culturel. Tout de suite dans la rubrique touristique.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc. À ce jour, il y a 19 400 hectares de vignes en République tchèque, une surface négociée à Bruxelles en accord avec les règlements qui empêchent les États membres d'étendre leur surface viticole. La plupart de ces surfaces se trouvent en Moravie du Sud et possèdent une longue histoire. La culture de la vigne a été introduite par les Celtes, comme en témoignent des trouvailles d'objets datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains qui ont séjourné au sud de la Moravie sont toutefois considérés comme les fondateurs d'une vraie tradition viticole, observe Zdeněk Karber, adjoint du maire de Velké Pavlovice.
Une petite chapelle portant le nom de Saint Venceslas marque l'endroit où les Romains avaient une tour de guet. Des milliers de légionnaires romains étaient stationnés au pied des hauteurs de Palava dans un camp permettant l'hivernage. Le limes romain, c'est-à-dire la frontière renforcée devant protéger l'Empire romain des incursions barbares venant de l'Est, traversait, au IIe siècle, le territoire morave jusqu'au Danube. Partout autour, les soldats romains avaient leur tour de guet permettant de transmettre des informations sur une distance de plusieurs kilomètres. Une lampe à huile romaine, en terre cuite, retrouvée ici, est à voir au musée de Mikulov. En 174, l'empereur Marc Aurèle a séjourné sur le territoire de l'actuelle Moravie méridionale, et selon certaines sources, il y aurait rédigé une partie de ses méditations philosophiques, pensées pour moi-même, directement dans cette région faisant partie de l'Empire romain et lieu de défense face aux Marcomans et aux Cades.
Introduite par les Romains, la culture de la vigne a été développée au début du Xe siècle par la princesse Ludmila, grand-mère de Venceslas, qui est l'un des patrons des vignerons avec Saint-Laurent et Saint-Urbain. La culture de la vigne connaît un essor au XIIIe siècle avec la formation de grands centres viticoles comme Prague, Litoměřice, Most et Mělník pour ce qui est de la Bohème, et Mikulov, Znojmo, Velké Pavlovice, Palava et Strážnice en Moravie. Aujourd'hui, les vignobles moraves produisent des vins blancs et des vins rouges de haute qualité, essentiellement grâce au sol riche en minerais et au soleil dont bénéficient les vignes plantées sur ces collines protégées proches de la frontière autrichienne. On écoute notre guide.
Les cépages les plus répandus sont la Frankovka, le Portugal bleu, le Svarová Vrchnické, le vin de Saint-Laurent, le Rulanské, André, Cabernet, Moravia, Cabernet Sauvignon et le Veltlín. Durant plus de 100 ans d'existence de l'Institut de sélection des vins de Velké Pavlovice, quatre variétés de cépages ont été sélectionnées. André, nommé d'après le naturaliste et sélectionneur français Christian André, installé en Moravie après avoir fui la France suite à la Révolution française. Palava, qui est une variété morave par excellence, et Aurelius, baptisé du nom de l'empereur Aurèle. Le plus récent, inscrit en 2002 au catalogue national des variétés tchèques, est le cépage Ani.
La popularité du tourisme viticole à Moravie du Sud ne cesse d'augmenter. Les personnes intéressées ont à leur disposition réseau de sentiers cyclotouristes et pour piétons avec des arrêts dans des caves. Des formules et des excursions diverses sur le thème de la découverte des vins et des particularités du terroir morave sont conçues à l'intention des visiteurs. Croisières à bord de bateaux, long du canal Batia, découverte du site Letnice Valkice, inscrit sur la liste de l'UNESCO. Découverte des monuments juifs qui abondent en Moravie du Sud ou encore des endroits liés à la bataille d'Austerlitz-Slavkov. Sont également proposées des randonnées dans les vallées de vignobles, des soirées gourmandes, des séances de dégustation et des dîners aux chandelles dans des caves voûtées. Un système d'information appelé les CAF ouvertes a été mis en place en 2010 dans plusieurs communes moraves grâce aux fonds européens. Sur des panneaux dotés d'écrans tactiles, on apprend quel vin il est possible de goûter, dans quelle CAF, etc. Plus d'infos sur www.modrehori.cz. Parmi les sites typiques et les mieux préservés en Moravie du Sud qui méritent la visite, les caves baroques de Petrov Plzeň. enfoncé à 15 mètres de profondeur et même plus parfois sur les pignons blancs de ces caves avec des socles peints de bleu et rouge sortent de la terre, disposant en plusieurs ruelles avec deux places, les façades richement décorées d'ornements motifs floraux typiques de la région forment un complexe pittoresque et unique du domaine viticole de Petrov, une commune de 1400 habitants près de Strajnice, classée monument culturel en 1983. Dans une de ces caves, nous sommes accueillis par le vigneron Radek Klasek.
La plus ancienne mention de ce site date du 15e siècle. Les plus anciennes caves, préservées dans leur état d'origine, datent du 17e siècle. Situées sur la rive de la rivière Morava, les fondations ont été construites en pierre et les voûtes en briques non cuites. Le complexe a gardé un caractère unique, avec ses frontons baroques peints de blanc, bleu et rouge, et décorés d'ornements colorés. En 1983, il a été inscrit au nombre de monuments culturels protégés. Le statut de site d'architecture populaire dont il bénéficie est l'une des raisons de sa préservation. Toutes les caves n'ont pas ce statut. C'est le cas de celles construites au début des années 1980.
Dans la cave de Radek Klasek, dont la famille possède deux vignobles et produit près de 12 000 litres de vin par an, nous goûtons 5 vins.
Effectivement, nos vignes sont situées très au nord au regard de la culture systématique de la vigne, et cela a une influence sur l'arôme. Le vin est plus aromatique. Il pleut ici au bon moment, lorsque se forgent l'arôme et le goût du vin. Notre vin est un peu acide, pas du tout fade, mais bien rond. Le terroir morave donne de très bons vins blancs qui peuvent concurrencer les vins français.
La question que beaucoup de visiteurs des caves de Plejet se posent est de savoir d'où vient ce nom de Plejet, qui veut dire escargot en langue tchèque. À noter que cette même question a été posée par le président Václav Klaus, qui s'y est rendu tout récemment. Pour Radek Klasek, il existe plusieurs explications.
D'abord, il y a eu beaucoup d'escargots ici. Ensuite, et c'est ce que disent surtout les femmes des vignerons qui rentrent le matin des caves, elles disent qu'ils rentrent comme des escargots. La troisième interprétation est la plus probable. Autrefois, on appelait les caves Plje, soit l'abrégé en dialecte morave du mot plégit, ramper, car les entrées des caves étaient traditionnellement basses pour que le froid ne puisse pénétrer à l'intérieur, et cela obligeait les invités à s'incliner. Pour ce qui est des dernières tendances, les consommateurs tchèques préfèrent les vins blancs, alors qu'il y a quelques années, la tendance était inverse. Alors que faire des cépages de vin rouge plantés il y a 10 ou 15 ans, si la demande a baissé entre-temps. Une des solutions a été de produire du rosé qui est fait avec des cépages rouges. Les raisins sont pressés tout de suite, sans fermentation, pour que le pigment présent dans les raisins rouges n'ait pas le temps de s'extraire. De cette manière, il ne reste que très peu de couleur rouge et le vin garde la légèreté du blanc. Le rosé du terroir morave est produit avec des raisins rouges mais avec la technologie du vin blanc.
Les sentiers du tourisme viticole à Petrov-Plejet mènent jusqu'en Slovaquie et l'Autriche voisine. D'ici quelques jours, exactement le 11 novembre, les visiteurs de la région pourront goûter le vin primeur appelé le vin de la Saint-Martin. Il s'agit d'une tradition renouvelée remontant au XVIIIe siècle et ce jour-là, les premières bouteilles du millésime 2011 seront ouvertes. La mise en vente du vin primeur équivaut au lancement du Beaujolais nouveau le troisième jeudi de novembre. En Moravie, comme en Bohême, la fête de la Saint-Martin est l'occasion de trinquer avec ce vin clair, accompagné de l'oie rôtie de la Saint-Martin, des gâteaux, comme le veut aussi la tradition.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Tous ces sujets, vous pouvez les retrouver en podcast et ou encore sous forme d'articles sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de nous être fidèles. Bon vent, ahoy.